Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission en direct. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une émission en live directement où nous allons parler d'ésotérisme, mais nous allons parler aussi un petit peu d'histoire et nous allons parler plus largement des traditions gnostiques, puisque le sujet de ce jour, ce sera l'Abraxas. Alors peut-être que certains d'entre vous connaissaient déjà le symbole de l'Abraxas, mais j'espère vous surprendre puisque nous allons présenter quelques éléments qui ne sont pas forcément très communs. D'autres, peut-être, n'ont jamais entendu parler du symbole de l'Abraxas. Eh bien, ce serait une bonne occasion pour découvrir tous les tenants, les aboutissants, les origines et la complexité de ce symbole. Alors, avant de débuter, pensez, si vous en avez envie, bien entendu, à mettre un petit pouce vers le haut, à partager la vidéo, bien entendu, cela permet de faire connaître la chaîne. Alors, tout d'abord, le plan de l'émission, de quoi allons-nous parler exactement? Eh bien, donc, une petite introduction. Tout d'abord, c'est quoi l'Abraxas? Ensuite, une première partie, l'histoire et le symbole de cet Abraxas. On parlera ensuite de sa nature magique, de sa nature théurgique, comment ce symbole était utilisé par les magiciens, les sorciers des temps anciens et peut-être aussi des temps modernes. Et puis, une dernière partie où nous parlerons des secrets de la gnose, concrètement, quelles sont les interprétations, quelle est la symbolique de cet Abraxas en l'occurrence, et je tenterai de vous l'exposer. Et puis bien sûr, comme d'habitude, une conclusion et une bibliographie pour ceux d'entre vous qui voudraient en savoir plus. Alors là, peut-être que vous avez déjà remarqué que ce symbole que vous voyez sur l'image est assez curieux. L'Abraxas, c'est une créature aux formes contraires. C'est une énigme dans l'ésotérisme. Sa tête est celle d'un coq, son corps, celui d'un humain, ses jambes sont remplacées par deux serpents. Tout ceci entrelacé, et dans sa main, on va trouver un fouet, et dans l'autre main, un bouclier. Alors la question, qui est Abraxas? Est-ce Dieu? Est-ce le diable? Est-ce un ange, un démon, ou toute autre créature encore? Là, vous voyez une petite représentation sur le côté, sur une médaille romaine d'époque, où on va voir d'autres curiosités, puisque déjà, on voit l'Abraxas, donc tête de coq, le bouclier, le fouet, les deux serpents, mais au-dessus, vous voyez encore deux des lettres du nom divin du dieu des Hébreux de l'Ancien Testament, dans sa version grecque, si l'on peut dire, et ça nous amène à quelques interrogations. Alors, qui est l'Abraxas? Tout d'abord, c'est un symbole que l'on va trouver pour les premières fois dans l'Antiquité, pour être exact, qu'on va trouver au IIe siècle de notre ère. L'Abraxas est né en Égypte, dans les courants de la gnose. Alors, faisons un petit point tout d'abord sur ce qu'est la gnose, rapidement. Si vous suivez la chaîne, vous avez déjà vu de nombreuses émissions sur la gnose, donc je répète assez sommairement pour ceux qui ne connaîtraient pas. La gnose ou le gnosticisme, c'est un courant du christianisme primitif, donc vous comprenez, il y a Jésus, les évangiles, et de là, il y a plusieurs versions, plusieurs interprétations du message christique. Parmi toutes ces interprétations, l'un d'entre eux deviendra majoritaire et deviendra l'Église de Rome, ce qu'on va appeler vulgairement le catholicisme nicéen, puis lui-même va se décomposer, les orthodoxes, les protestants, etc., par la suite. Mais au début, dans le christianisme primitif, il y avait d'autres versions. Et parmi ces autres versions, il y a la famille des courants du gnosticisme. Alors, ils ne sont pas tous d'accord entre eux. On va trouver les valentiniens, les basilidiens, les sétiens, les sophiques, les barbélognostiques. Ils partagent plusieurs éléments communs, dont l'un d'entre eux étant qu'il y aurait un démiurge, c'est-à-dire une créature, une entité, qui serait créatrice et organisatrice du monde. Mais ce ne serait pas Dieu au sens l'être absolu, ineffable. Donc, pour les gnostiques, il y a un Dieu lointain et inaccessible qui est l'origine de toute chose, mais ce Dieu originel, il ne nous a pas créés, il ne nous a pas conçu le monde a émané de lui, il s'est projeté à partir de lui. Et cette projection qui s'est faite à partir de lui a donné naissance à des aéons, des sortes d'entités, dont l'une d'entre elles est appelée par les gnostiques le démiurge, ou Yaldabaoth, en l'occurrence. Les gnostiques sont à peu près tous d'accord sur ce point. Donc ce démiurge, ce Yaldabaoth, serait l'organisateur cosmique, si l'on peut dire, un peu à la façon des dieux Odin, Zeus ou Osiris, ou Ra, par exemple, plutôt, en Égypte, en l'occurrence. C'est pas le dieu d'origine, mais c'est l'organisateur. Là, à ce stade, on ne parle pas du fait qu'il soit gentil ou qu'il soit méchant, qu'il ait bien fait son travail ou n'ait pas bien fait. Ce n'est pas la question à ce stade. Là, c'est le point de base de tous les gnostiques. Mais ensuite, il va y avoir des points de vue différents, puisque par exemple pour les Sétiens et pour les Ophites, eux, ils vont considérer que le démiurge est un être malveillant, qu'il a créé un monde qui est maléfique, un monde de souffrance et qui est en réalité une prison. Vous comprenez, c'est notre monde à nous. Sous-entendu, nos corps de chair et le monde dans lequel nous vivons seraient en réalité une prison, un monde de la souffrance, de la corruption, créé par le démiurge pour nous asservir. Point de vue des Sétiens et des Ophites. Mais de l'autre côté, si on va chez les Valentiniens et les Basilidiens, par exemple, eh bien, ils ne pensent pas tout à fait la même chose. Ils ne pensent pas que le démiurge est un être malveillant, mais ils pensent que c'est un intermédiaire avec la divinité suprême. Donc, le démiurge, c'est ce qui fait le lien, qui organise le monde cosmique, qui rend ceci intelligible, mais n'est pas pour autant le véritable Dieu. Donc, nous, le monde et même le démiurge, pour ces cours-là, sommes tous émanés de la divinité suprême, mais avec un démiurge qui l'organise. Vous voyez l'idée. Alors, du coup, on va entrer dans cette première partie, puisque c'est là, en fait, que l'Abraxas va prendre tout son sample, puisqu'il est intimement lié à cette histoire de démiurge. Pour cela, on va aller voir ses origines. On va voir les origines du symbole de l'Abraxas, qui est né dans le courant gnostique des Basilidiens. On va voir quelles sont les sources d'inspiration plus anciennes qui ont abouti à ce symbole. On va parler de l'Abraxas des Templiers, car oui, il semblerait que les Templiers aient utilisé le symbole de l'Abraxas. Ensuite, on va parler de l'Abraxas de l'évêque de Chichester, donc un évêque qui avait un symbole gnostique, c'est assez curieux, vous en conviendrez. Ensuite, on parlera du démon Abraxas, puisque vous vous doutez que l'Église classique va transformer ce personnage en démon. Et puis finalement, on parlera du point de vue des occultistes du 19e sur l'Abraxas, avant d'aller sur la deuxième partie. Alors tout d'abord, les origines de l'Abraxas, eh bien, c'est Basilide d'Alexandrie au 2e siècle, donc un gnostique, un des pères du gnosticisme, qui a créé le symbole de l'Abraxas. Celui-ci représente par une suite de une logique numérique, c'est-à-dire une numérologie en additionnant le nombre numérique lié aux lettres, eh bien cela aboutit au nombre 365, soit les émanations divines des Aaron, des génies ou des anges, suivant les traductions, qui régissent le monde. Donc comprenez, à ce stade, c'est relativement simple, l'Abraxas est un mot qui est composite, qui est fait pour avoir une valeur numérique. Cette valeur numérique représente 365, le nombre de jours de l'année. Et donc ces 365 jours de l'année représentent le cycle cosmique de la Terre, bien sûr, et plus largement le cycle cosmogonique de l'univers. C'est la lecture qu'en fait Basilide. Mais pour aller plus loin, ce Abraxas, ce n'est pas le Dieu suprême, vous l'aurez compris, mais l'ensemble des puissances intermédiaires entre la divinité inaccessible et la création. Là, on revient à ce que je vous disais tout à l'heure, il y a le Dieu suprême ineffable lointain. De là émanent de lui les aéons ou les forces intermédiaires. Parmi toutes ces forces intermédiaires, elles ont toutes des fonctions, des prérogatives, des actions diverses, mais si on les regroupe toutes en un seul mot, ça donne l'Abraxas. Donc c'est une façon d'exprimer les 365 manifestations du divin, si vous voyez l'idée. Alors, ensuite, toujours chez Basilide, son nom, donc, la valeur numérique en grec qui équivaut, je vous disais, à 365, exprimant la totalité du temps et du cosmos. Puis, par la suite, les disciples de Basilide vont faire d'Abraxas un symbole de la puissance du monde manifesté, reflet intérieur du Dieu inconnaissable. Il domine également les sept grands archontes, les planétaires, associés aux sept astres visibles, Soleil, Lune, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus et Saturne, ou encore aux sept archanges, suivant encore une fois les termes que l'on emploie. L'image que vous voyez est justement celle d'un Abraxas avec une inscription en grec ancien à visée magique, avec marqué « Yah », le nom des Hébreux, ou encore de « Sabaoth ». Alors, ça c'est intéressant parce que donc le symbole de l'Abraxas, avec ce simple mot et cette représentation, ça représente le concept cosmogonique global, mais ça représente aussi les sept astres visibles, comprenez les sept puissances agissantes. Alors là, il faut remonter loin dans l'Antiquité. Le principe de ces sept astres visibles, ou de ces sept divinités qui régissent le monde, ces grands archontes ou ces grands archanges, eh bien, ce principe du nombre sept, on va le retrouver un peu partout, avec les sept jours de la création, les sept anges déchus, les veilleurs qui descendent sur terre dans le livre d'Enoch, les sept jours de la semaine, bien entendu, et bien sûr encore les sept astres visibles, les sept couleurs de l'arc-en-ciel, les sept notes de musique, etc., etc. Donc tout ça, c'est caché dans le symbole de l'Abraxas. Alors, chose aussi importante dans la pensée des basiliens, Dieu, origine de tout, est inconnaissable et inaccessible, donc on n'a pas la capacité à l'interpréter, à le percevoir, ou même à le comprendre. Par contre, ses émanations, l'Abraxas, dans sa globalité, lui, il est à la fois de nature spirituelle, mais il crée la matière, donc il est microcosme-macrocosme dans cette idée. En ce sens, on peut comprendre l'environnement dans lequel on vit, on peut comprendre ses lois, le symbole du 7, le symbole du 365, et d'autres symboles encore, et de ce fait, en comprenant cette architecture cosmogonique, on comprend l'Abraxas, et si on comprend l'Abraxas, on comprend toutes les émanations du divin. Vous comprenez ? Là, on est sur le principe de la quête, c'est-à-dire du chemin diagnostique d'accès à la connaissance. Alors, poursuivons, puisque, évidemment, au-delà de la création de Basilide, celui-ci n'a pas établi ce concept à partir de rien. Donc, on va aller voir d'où il puise ses inspirations. Alors, là, je vous donne tout d'abord un petit texte. C'est le traité contre les hérésies de Saint-Irénée. Je ne vais pas vous lire tout le texte, c'est un petit peu long. Mais vous vous doutez bien que dès que ce concept d'Abraxas va exister, eh bien, les partisans du courant chrétien majoritaire, hein, qui va donner encore une fois l'Église de Rome, eh bien, eux vont considérer que ce symbole est de nature diabolique ou de nature malveillante. En gros, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Donc, c'est dans le philosophe Nénia, dans Irénée, mais également de saint Hippolyte, on va trouver ces notions, qui nous disent les gnostiques, ce sont des gens terribles, ce sont des hérétiques, puisqu'ils considèrent qu'en fait, il y a plusieurs dieux intermédiaires, tout ceci, c'est de l'idolâtrie, donc tout ceci est de l'hérésie, c'est pas bien, il faut le condamner, et ça sera condamné, puisque toute la doctrine des basilidiens, mais plus largement des gnostiques, sera éradiquée, si l'on peut dire, à la fin de l'Antiquité, au 4e siècle, ils ont déjà grandement disparu, et puis au 5e siècle, ils sont quasiment totalement éteints. Il faudra attendre le Moyen-Âge européen, notamment le 12-13e siècle, pour avoir des résurgences des concepts gnostiques, notamment chez les cathares, les bogomiles, etc., etc. Vous trouverez des émissions sur la chaîne qui présentent tout ça. Donc, le christianisme majoritaire voit en Abraxas une sorte d'archétype de démon, un être idolâtre, un faux dieu, si vous préférez, et vont donc le condamner. Mais donc, allons maintenant sur les origines. Les sources d'inspiration. L'Abraxas se rattache à un ensemble de traditions antérieures à Basilide, issues du syncrétisme religieux et symbolique du monde gréco-égyptien. Car oui, ça c'est important de contextualiser. Au moment où Abraxas développe sa perception de la gnose, nous sommes au deuxième siècle de notre ère. Le christianisme a déjà commencé. Mais ce n'est pas du tout la religion majoritaire à ce stade. Très très loin de là. Si ça touche 5 à 10% des personnes de l'Empire romain, c'est le grand maximum à ce stade. Donc, comprenez que au-delà de Basilide et des autres gnostiques, en Égypte, à Alexandrie, il y a un carrefour culturel très important entre la culture native égyptienne, et donc toute la mystique égyptienne qui porte avec elle, mais le territoire était sous domination grecque depuis près de 6 siècles à ce stade, depuis la conquête d'Alexandre le Grand, au 4e siècle avant notre ère. Donc, il y a un mélange entre la culture égyptienne et leur mystique, et la culture grecque et leur mystique. On appelle ça la mystique gréco-égyptienne. Et ce terreau particulier, il va donner naissance à plusieurs éléments. Il va donner naissance à l'hermétisme, il va donner naissance au gnosticisme, avec les inspirations du christianisme, bien sûr, il va donner naissance à certaines traditions de l'alchimie, et il va aussi donner naissance, par exemple, au culte à mystère d'Isis, qui est une adaptation des mystères grecs en Égypte. Donc on est sur un terreau extrêmement fertile au niveau des traditions de nature ésotérique, si l'on peut dire. Carrefour culturel, donc, égyptien, grec, on a une diffusion de la mystique hébraïque à cet endroit-là, et puis, chemin faisant, la révolution chrétienne qui intervient aussi dans cette affaire. Donc, vous voyez, on est sur un carrefour très, très intéressant au niveau culturel. Alors, d'après Jacques Mater, dans son Histoire critique du gnosticisme, publiée au XIXe siècle, la figure d'Abraxas s'enracine dans la théosophie égyptienne, notamment dans les attributs d'Amon-Ré, de Ptah-Sokar et du serpent Knouphis, symbole du feu créateur et de la puissance divine. Ces représentations, mêlées au néoplatonisme alexandrin et au zoroastrisme qui qui d'après lui est importé par les Juifs de retour de l'exil, ont façonné l'arrière-plan doctrinal sur lequel Basilide a bâti son système. Le mot Abraxas lui-même dériverait d'un terme copte signifiant parole sacrée ou parole nouvelle, reflet d'une antique magie verbale égyptienne. La gemme dite d'Abraxas, de sorte de pierre sacrée, utilisée dès le IIe siècle, témoigne de ce syncrétisme alexandrin où se mêlent nom divin hébraïque, Yah, Sabaoth, figure égyptienne et symbole astrologique des Grecs. Alors, l'inspiration, multiple bien sûr. Déjà dans sa forme, l'Abraxas, le fait de le représenter avec une tête de coq, ça a évidemment une portée symbolique, mais ça nous fait directement penser aux traditions égyptiennes qui représentaient les dieux avec des têtes zoomorphiques, des têtes animales. Si les Égyptiens faisaient ça, c'était pas parce qu'ils étaient bizarres ou qu'ils avaient un goût esthétique particulier, c'est qu'ils prêtaient à des animaux des qualités symboliques, la ruse, l'intelligence, la puissance, la perception, tout ce qu'on veut, et donc en attribuant une figure zoomorphique à une divinité, on prêtait des qualités ou des fonctions à une divinité. Ça avait un sens symbolique, encore une fois. Or, l'Abraxas reprend ce système égyptien de forme symbolique. Mais dans sa main, il possède des attributs. Ça, c'est une tradition qui est typique des Égyptiens, mais qui est aussi typique des Grecs. Avec, on a Hermès qui porte le caducé, on a Apollon qui porte divers objets, comme la lyre, etc. Orphée, le foudre de Zeus, tout ce que vous voulez. Donc là, le fait de lui mettre un fouet et un bouclier, ça a aussi une portée symbolique propre aux Égyptiens et aux Grecs. Mais pas du tout hébraïque, puisque dans la culture juive hébraïque de cette époque, l'idolâtrie étant interdite, on ne doit pas représenter la divinité. Et donc, il ne devrait pas y avoir d'image. Néanmoins, on voit l'impact d'une certaine forme de mystique hébraïque et chrétienne, puisqu'on va retrouver le nom de Yah, ou de Yahvé, si vous préférez. Sabaoth, encore une fois. Donc, on voit aussi la mystique égyptienne qui prend part dans cette construction symbolique. Jacques Mater dit à cette époque, au 19e, que pour lui, les Hébreux, eh bien, en fait, ils ont ramené des traditions que eux-mêmes ont pris du zoroastrisme quand ils étaient à Babylone. Et en ce sens, on dira aujourd'hui, bah non, le zoroastrisme et le monothéisme juif sont très très différents, donc il n'y a pas de rapport. Eh bien, ça mérite d'être étudié, en l'occurrence. Et moi, je suis plutôt d'accord avec Jacques Mater, bien que réactualisé avec les connaissances de notre temps, et beaucoup plus affiné, peut-on dire, mais il est évident que le monothéisme juif n'est pas né d'un seul coup, et qu'il s'est largement nourri des traditions mésopotamiennes de Babylone, notamment du culte d'Azura Mazda, le mazdéisme, le zoroastrisme. Donc, en ce sens, je pense que Jacques Mater avait vu quelque chose d'intéressant, mais ça nous amènerait un petit peu plus loin. Donc, retenez le syncrétisme de ce symbole qui puise à différentes traditions. Allons plus loin, maintenant, avec l'Abraxas des Templiers. Alors, avant de présenter le document, quand on parle des Templiers, c'est un peu le point Godwin de l'ésotérisme. Si, quand on parle d'histoire, on finit toujours avec la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, quand on parle d'ésotérisme, on finit toujours par citer les Templiers à un moment ou un autre de l'histoire. Eh bien, là, c'est encore le cas. On va citer les Templiers. Pour beaucoup, les Templiers étaient les détenteurs d'une doctrine ésotérique secrète et ils ont été éliminés à cause de leur tradition gnostique dissimulée. Et puis, les Templiers auraient survécu dans l'ombre de l'histoire pour renaître sous différents visages dans des traditions initiatiques, les Rosicruciens, les francs-maçons, les martinistes ou que sais-je encore. Si ceci est romantique et est très 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 loin d'être valide sur un plan historique, il n'empêche que les Templiers, ou du moins l'un d'entre eux, a bel et bien utilisé le symbole de l'Abraxas sur un sceau, un contre-sceau pour être plus précis, au XIIIe siècle. Donc, quand on dit les Templiers avaient-ils une tradition gnostique, si on n'a pas de preuves lourdes pour l'appuyer, on a quelques petits faisceaux d'indices qui peuvent nous amener à le penser. Je mets toute la prudence, évidemment, vous l'aurez constaté dans cette phrase, mais le Templier, le Abraxas, était là. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Le contre-sceau à l'effigie de l'Abraxas panté appartenait bien à André de Collours, ou André de Collours, qui portait le titre de Domorum Templi Francia Protector, c'est-à-dire le précepteur des maisons du Temple en France. Donc, ce n'était pas Jôle rigolo, c'était quand même un type relativement important dans l'ordre du Temple. Au niveau de la datation, le sceau est attribué donc au XIIIe siècle, donc à la période centrale de l'ordre du Temple, servait de contre-sceau personnel, c'est-à-dire une empreinte secondaire placée au revers du sceau principal pour authentifier les documents officiels ou privés. Le motif de l'Abraxas Panthé y apparaît comme un symbole initiatique mêlant l'héritage gnostique antique et la tradition templière. Ce sceau, unique, a alimenté l'idée d'une dimension ésotérique interne à l'ordre du temple, car l'Abraxas incarne la connaissance totale de la synthèse du divin et du matériel. Une image atypique dans un contexte chrétien, vous en conviendrez. Alors, plusieurs hypothèses. Première hypothèse, André de Colour ne savait pas du tout ce que représentait ce symbole, et pas du tout conscience que l'Abraxas était un vieux symbole gnostique du IIe siècle de l'Antiquité qui appartenait aux Bénédictins. Pourquoi pas ? Deuxième hypothèse, il avait parfaitement conscience de ce que représentait ce symbole et il a décidé de l'utiliser sur son contre-sceau, donc c'est pour authentifier des documents ou une correspondance particulière entre initiés. C'est possible, ne fermons pas la porte. C'est possible. Troisième hypothèse, il a utilisé ce symbole parce qu'il l'a trouvé joli et il s'est dit « oui, ça a l'air d'être un vieux symbole un peu païen, mais je vais quand même l'utiliser parce qu'il est joli et puis je me fiche des conséquences. » Troisième hypothèse. Alors, vous êtes libre de choisir laquelle des trois vous préférez. Mais il y a quand même une petite indication supplémentaire qui peut nous aiguiller. Vous ne le verrez peut-être pas très très bien sur cette image, mais là au milieu du contre-sceau, vous voyez l'Abraxas. Tête de coq, le fouet, le bouclier, les deux serpents, le corps en tourbillon. Mais juste autour, vous voyez la croix templière en haut, mais voyez ici le Secretum Templi. En traduction, le secret du temple. Le temple a-t-il un secret ? Pourquoi marquer une phrase curieuse qui est le secret du temple ? Ça véhicule tout un tas de fantasmes imaginaires. Et dans le côté, mettre un abraxas en symbole gnostique au même endroit. Il est évident qu'on va naturellement se poser la question, et à titre personnel, je pense en effet pour l'existence d'une tradition de type gnostique au sein de l'ordre du Temple, probablement minoritaire, mais qui a pu exister concernant quelques individus qui s'échangeaient des missives ou qui travaillaient probablement ensemble. Cela nous amènera à nous interroger sur et quelle était la fameuse idole des Templiers, le fameux Baphomet. Nous en reparlerons en fin d'émission. Donc, pour l'instant, retenez, les Templiers, du moins l'un d'entre eux, a utilisé l'Abraxas, symbole gnostique, pour ses correspondances. Mais ce n'est pas le seul. On a un autre personnage qui l'a fait. L'Abraxas de l'évêque de Chichester. Séfrid, évêque de Chichester, en 1159, possédait un Abraxas, aujourd'hui conservé à la cathédrale de la ville. Nom divin, apparaissant dans les papyri magiques de la Grèce antique, et sur de très nombreuses amulettes au point qu'il est synonyme de ce terme. Phrase extraite du livre de Claude Lecouteux, le livre des amulettes et talismans. Alors voilà, vous distinguez l'Abraxas, bon, tête de coq, on ne la voit pas très bien, vous voyez le serpent, le corps anthropomorphe, le fouet ou le sceptre avec le bouclier. Donc là, on a un évêque. Alors, vous vous doutez, encore une fois, Abraxas et un évêque, ça ne fait pas très 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 bon ménage. Est-ce qu'on peut se dire, encore une fois, mais l'évêque, il n'a rien compris. Il porte un symbole hérétique, condamné par saint Irénée, condamné par saint Hippolyte, condamné par Clément d'Alexandrie, et cet évêque, il se permet de porter ça sur sa bague. Trois options. Première option, il a trouvé les symboles jolis et il ne savait absolument pas ce que ce symbole représentait. Deuxième option, il avait parfaitement connaissance de ce que ce symbole représentait et il l'a délibérément mis sur sa bague. Troisième option, il l'a trouvé jolie et il l'a mis sur sa bague, sachant aussi ce que ça voulait dire, mais il n'en avait rien à battre, donc il l'a fait quand même. Encore une fois, c'est les trois options. Et là, je n'ai aucun début d'explication pour vous l'expliquer. Néanmoins, on peut aussi émettre l'hypothèse, avec d'immenses réserves, de dire il est possible que certains ecclésiastiques aient partagé certains aspects d'un christianisme gnostique, de façon discrète, de façon un peu clandestine, se sont intéressés aux traditions de l'Antiquité, ne faisaient pas trop de bruit pour ne pas trop l'afficher, sauf le monsieur sur sa bague, et voilà, en gros, ce gnosticisme aurait survécu au sein de l'Église par quelques ecclésiastiques intéressés par ces traditions initiatiques. Ce n'est pas délirant, puisqu'on a quand même un certain nombre de textes à caractère magico-religieux, notamment théurgiques, notamment alchimiques ou hermétiques, qui ont été produits par des ecclésiastiques. Donc le fait que des ecclésiastiques se soient intéressés à la gnose, ou du moins au système de pensée ecclésiastique, ce n'est pas aberrant. Là, c'est intéressant parce qu'on est sur un symbole qui, l'évêque de Rochester, on est sur un symbole au XIIe siècle. Donc c'est quand même très précoce, on n'est pas du tout au moment de la Renaissance où ces textes, où les traditions antiques seront démocratisées, si on peut dire. Donc on est vraiment sur une idée de survivance et non pas de récupération, si je puis dire. Et c'est extrêmement intéressant. Alors, en allant plus loin, on va parler de la transformation d'Abraxas en démon. Je vous cite le dictionnaire infernal de Colline de Plancy. Abracax ou Abraxas, l'un des dieux de quelque théogonie asiatique du nom duquel on a tiré le phylactère Abracadabra. Abraxas est représenté sur des amulettes avec une tête de coq, des pieds de dragon et un fouet à la main. Les démonographes ont fait de lui un démon qui a la tête d'un roi et pour pied des serpents. Les basilitiens, hérétiques du IIe siècle, voyaient en lui leur dieu suprême. Comme ils trouvaient que les sept lettres gravées dont il formait son nom faisaient en grec le nombre 365, qui est celui des jours de l'année, ils plaçaient sous ses ordres plusieurs génies qui présidaient aux 365 cieux et auxquels ils attribuaient 365 vertus, une pour chaque jour. Les basilitiens disaient encore que Jésus-Christ, notre Seigneur, n'était qu'un fantôme bienveillant envoyé sur la terre par Abracax. Il s'écartait ainsi de la doctrine de leur chef. Alors, c'est intéressant parce que dans le dictionnaire infernal de Colline de Plancy, on a l'impression que Abraxas est un démon bien connu parmi les démonologues. Or, quand on lit les textes de démonologie, eh bien, on ne trouve pas vraiment de références à l'Abraxas. Donc on voit que Plancy reprend un petit peu les traditions populaires, reprend certains éléments de la gnose antique, pour dire, voilà, bon, les gnostiques, de toute façon, les gnostiques, c'était des hérétiques, c'était plus ou moins des adeptes du démon, donc l'Abraxas, de facto, est aussi un démon. Mais par contre, dans ce petit texte, il nous livre quand même quelques informations. Il nous explique à demi-mot qu'est-ce que ça représentait, en fait, l'Abraxas pour les gnostiques, avec cette idée des 365 puissances divines, qui représentaient chacun des vertus, des qualités particulières. Et donc, en fait, c'est aussi une source d'information, même quand c'est une critique du symbole, en l'occurrence. Pour avoir cherché un certain temps, l'Abraxas est assez peu présent chez les démonologues, il est assez peu présent dans les grimoires médiévaux et de la Renaissance, donc visiblement, ce n'est pas un symbole qui a été utilisé, ou si ce n'est très très sommairement, par les adeptes du satanisme ou les mages noirs qui faisaient des invocations aux démons. L'Abraxas n'a, semblerait-il, quasiment jamais été invoqué en tant que démon par les adeptes de la magie noire. L'absence de source n'étant pas une preuve, bien entendu, mais l'association du Abraxas en démon est relativement légère et les sources manquent pour l'étayer. Excusez-moi, je bois une gorgée, je sors d'une grippette ou d'un Covid, je ne sais pas trop récemment, je suis encore un peu pris. Alors, allons plus loin et maintenant, voyons comment Abraxas est perçu chez les occultistes. Eliphas Lévi, dans Dogmes et rituels de haute magie, nous dit ceci. Déclarons ici sans détour que le grand agent magique, le double courant de lumière, le feu vivant et astral de la terre, a été figuré par le serpent à tête de taureau, de bouc ou de chien. Dans les anciennes théogonies, c'est le double serpent du caducée. C'est l'ancien serpent de la Genèse. Mais c'est aussi le serpent des reins de Moïse, entrelacé autour du taureau. C'est-à-dire du lingam générateur. C'est aussi le bouc du sabbat et le baphomet des templiers. C'est l'ilée des gnostiques. C'est la double queue du serpent qui formait les jambes du coq solaire des Abraxas. Alors pour Eliphas Lévi, c'est très simple. L'Abraxas, c'est un symbole qui, par les deux serpents, représente les deux forces antagonistes et complémentaires, l'agent cosmique, la lumière astrale, polarité énergétique du yin et du yang, Yona et Ereb, les deux forces complémentaires et opposées, les deux serpents du caducée. En ce sens, Abraxas est l'individu, l'être cosmogonique, qui porte en lui les deux forces antagonistes et complémentaires et qui a un pouvoir démiurgique créateur. En gros, l'Abraxas est une représentation allégorique du mage, celui qui porte le sceau du pouvoir par les deux serpents manifestés. Comme Moïse pour Eliphas Lévi, qui porte cette puissance cosmogonique, maîtrisant les serpents, comme le Baphomet, nous le verrons plus tard pour Eliphas Lévi, etc. Donc pour Eliphas Lévi, pour les occultistes, l'Abraxas n'est pas du tout un symbole diabolique, n'est pas du tout un symbole du mal, mais c'est un archétype cosmogonique, une représentation qui manifeste le mage sous forme du microcosme ou le démiurge créateur dans son concept macrocosme avec celui qui porte en lui le pouvoir créateur, humain ou divin. Donc pont entre les deux. En gros, l'Abraxas devient ici un symbole de l'initié pour Eliphas Lévi et tout un tas d'autres occultistes, notamment Manly Palmer Hall aux États-Unis. Alors maintenant, on va aller un petit peu plus loin et on va parler des utilisations. En quoi le Baphomet était utilisé. Après cette deuxième partie, j'irai voir dans le chat si vous avez des messages, si vous avez eu des questions à me poser par rapport à ce symbole. Je vous rappelle, si vous voulez poser des questions lors de cette émission, vous devez être membre sur la Web TV et vous avez le lien en message épinglé dans le chat si vous souhaitez rejoindre les membres de la chaîne et me soutenir dans mon activité. Alors, maintenant donc, deuxième partie, un symbole magique. On va parler des formules, de la fameuse formule abracadabra. On va parler des papyrus grecs magiques, on va parler des gemmes et des amulettes gnostiques, et enfin on parlera de l'usage moderne du symbole chez Carl Gustav Jung. Alors, la formule abracadabra, vous la connaissez tous, abracadabra, c'est un truc qu'on va retrouver dans tous les mauvais films de magie, avec les illusionnistes qui jouent à la magie, abracadabra, ils font disparaître un lapin. On va la retrouver sous une forme dérivée dans Harry Potter avec le fameux Avada Kedavra pour tuer des gens. Sauf que, en fait, il semblerait que dans Harry Potter, on s'inspire d'un terme plus ancien qu'abracadabra. On va le voir. Donc, abracadabra, c'est un mot qu'on va trouver un petit peu partout et qui illustre l'idée formule magique. Mais en réalité, ça vient de l'Abraxas. Alors, la formule abracadabra, aujourd'hui réduite à un simple mot magique, provient des traditions gnostiques et magiques de l'Antiquité. Elle apparaît d'abord chez le médecin romain Serenus Samonicus dans le Liber Medicinalis au IIIe siècle, qui recommandait de l'écrire en triangle sur une amulette afin de guérir la fièvre et repousser les esprits malins. Son origine semble liée au gnosticisme alexandrin et au nom sacré Abraxas, dont elle partage la fonction de mot de pouvoir. Plusieurs étymologies sont avancées. Peut-être du chaldéen, Hab ben Dabara, le père crée la parole. Ou encore de l'araméen, Avra Kedabra, je créerai comme je parlerai. Et ça ressemble à la formule d'Harry Potter. Dans les deux cas, le mot renvoie à la puissance créatrice du verbe, au logos, capable de modeler le monde par la parole. Dans la magie antique, puis médiévale, abracadabra servait de formule protectrice contre les maladies, les influences astrales, et sera reprise plus tard par les traditions hermétiques. Alors là, sur le schéma, vous voyez le triangle de Quintus Severinus, où on voit le mot en complet tout en haut, et puis après, à chaque étage, on descend en retirant une lettre pour finir simplement avec la lettre A. Alors ça, c'est intéressant parce que la lettre A, c'est le premier son quand on inspire, quand on vient à la vie. La première respiration, on prend l'air, le A, c'est le nom de Adam. C'est le nom du premier dieu, du premier kami originel chez les Japonais, Ameno Minakanuchi. C'est le Hadam Kadamon de la Genèse. Le A, c'est le son originel, le Aum, tout simplement aussi. Donc le A, dans de nombreuses traditions ésotériques, c'est le son primordial du commencement. Et donc avec Abracadabra, on retrouve ce A au commencement, puis à la fin, toute la formule reste avec toujours ce son primordial qui est toujours maintenu. Donc, ce mot, il est conçu à l'origine comme un peu comme les carrés magiques, comme un mot de pouvoir qui a une puissance liée à l'Abraxas, donc liée à la puissance cosmique de l'univers, faisant intervenir des forces pour les manipuler dans un but précis. En gros, c'est un mot de pouvoir qui focalise une intention, repousser une maladie, repousser un malheur, avoir de la chance ou tout ce que vous voulez. En soi, l'abracadabra ne définit pas un sort particulier, mais va être utilisé dans une conception de sort. C'est pour ça que abracadabra, on le met à toutes les sauces. C'est parce qu'à la base, c'est un mot de pouvoir qui développe la puissance, comme qui utilise la puissance de l'Abraxas, donc comprenez la puissance cosmogonique de l'univers. les fameux deux serpents, si vous voyez l'idée. Alors, on voit aussi avec ce mot une chose intéressante, c'est ce principe de suppression. On a le abracadabra au début, tout entier, puis ensuite on réduit pour arriver au A. Et là, ça nous renvoie un petit peu aussi à la magie kabbalistique, où on joue beaucoup avec ce type de procédé, notamment dans le mythe du golem. Le mythe du golem, donc une créature d'argile, une sorte de créature anthropomorphe mais faite d'argile, et on impose des mots sacrés sur cette créature, et en mettant le mot sacré Emmet, eh bien la créature va s'activer. Sauf que si on enlève la lettre, la première lettre de Emmet, on retrouve le mot Met, qui veut dire mort, donc la créature s'éteint, elle retourne à la poussière. Et là, on retrouve des mêmes procédés qu'avec ce système de suppression dans le abracadabra. Mais ce n'est pas le seul usage de l'abraxas. On va trouver aussi les papyrus grecs magiques. Alors, c'est un ensemble de textes qui sont, pourrait-on dire, un ensemble de... C'est comme les grimoires pratico-pratiques. Hein. Ne vous attendez pas à y trouver des concepts théologiques sur l'élévation spirituelle. On est sur des formules magiques pour avoir la chance, l'amour, pour provoquer des tempêtes, pour se protéger des tempêtes, pour tous les sorts classiques de la sorcellerie. C'est ce qu'on va trouver dans les papyrus grecs magiques. Dans ces papyrus, l'abraxas apparaît, notamment entre le 2e et le 5e siècle. Ce sont des manuscrits trouvés dans l'Égypte gréco-romaine qui mêlent les traditions égyptiennes, grecques, juives et gnostiques. L'abraxas y est invoqué comme un nom de puissance, un vocis magicae, utilisé pour commander aux forces célestes et obtenir la protection divine. Son nom figure souvent aux côtés de Yah, Adonai ou Sabaoth, signe d'une influence judéo-gnostique. Alors, ces papyrus grecs magiques, ça illustre une chose intéressante, c'est qu'ils s'inspirent de tout un tas de choses qui se font dans les différentes traditions qu'on a présentées, mais eux, dans une portée pratico-pratique. Sous-entendu, les enseignements de la mystique juive, de la mystique hermétique, de la mystique gnostique, ou même de la mystique chrétienne, qui cherche l'élévation spirituelle, eh bien, ça n'empêche qu'il y a tout un tas de gens qui cherchaient le pratico-pratique et qui utilisaient l'abraxas, non pas pour relier leur conscience à Dieu, mais pour les péripéties du quotidien, pour trouver l'amour, pour avoir de la chance, pour avoir la fortune et la richesse et la beauté, que sais-je encore. Donc, l'abraxas est un mot utilisé dans des formules de magie opérative, tout simplement. Mais ce n'est pas tout. Plus tard, on va trouver aussi des gemmes et des amulettes gnostiques. On est toujours dans le pratico-pratique, la magie du quotidien. Les gemmes avec le symbole de l'abraxas sont des petites pierres gravées représentant la figure hybride à tête de coq, jambe de serpent, servant d'amulette atropotique, protectrice et de sceau personnel. Là, vous vous rappelez de notre évêque des îles britanniques qui portait un abraxas. Eh bien, on est typiquement sur une gemme magique. Peut-être que notre évêque cherchait à se prémunir des dangers de la vie courante et qu'il a fait mettre un abraxas sur sa main pour éloigner le mauvais sort. C'est une hypothèse tout à fait recevable. Peut-être que André de Collour, avec son contre-sceau templier, a utilisé le sceau de l'abraxas pour préserver ses missives secrètes afin que personne ne puisse, que la malchance qu'elle tombe entre de mauvaises mains n'arrive pas. C'est une hypothèse. Alors, toutes ces gemmes portaient donc souvent le nom Abraxas, en grec, accompagné de formules comme Yah, Sabaoth, Eloi, etc., donc des noms divins divers et variés. Ces pierres étaient censées protéger contre les maladies et les démons, attirer la faveur divine, ou garantir la réussite dans les affaires et les voyages. Elles étaient très répandues dans tout le bassin méditerranéen, de l'Égypte à la Gaule, et leur iconographie a profondément marqué la symbolique magique occidentale. Plus loin, en allant dans les temps modernes, Jung a aussi utilisé le symbole de l'abraxas, mais évidemment dans une portée psychanalytique. Dans la pensée de Carl Gustav Jung, l'abraxas devient un symbole central de la psychologie des profondeurs. Inspiré par les textes gnostiques, Jung voit en lui l'image de la totalité psychique de l'individu, unifiant les forces opposées du conscient et de l'inconscient, du bien et du mal, de Dieu et du diable, toutes les facettes des possibilités. Dans les sept sermons aux morts, Abraxas représente le principe créateur absolu, source de toutes les dualités. Il n'est ni bon ni mauvais, mais le tout vivant qui englobe à la fois la lumière et l'ombre. Son usage en psychologie jungienne illustre la quête intérieure du soi, cette réconciliation intérieure des contraires par lequel l'homme accède à la plénitude. Donc pour Jung, il ne s'agit pas pour lui de croire à l'existence d'une déité Tartampion ou que sais-je, du nom d'Abraxas. Lui, il dit que ce symbole est intéressant dans sa représentation archétypale, puisque on a un être qui fait le lien entre l'hypothèse du divin inconnaissable et le monde tangible matériel, et qu'il englobe les deux à la fois, cet Abraxas, par ses représentations. En soi, si on le met de façon microcosmique à l'échelle de l'individu, le moi, mon inconscient, composé de mon inconscient collectif et de l'ombre, tous mes personas, toutes mes multiples facettes de ma personnalité, mon soi, c'est-à-dire ma perception de moi-même inconnue, devient l'Abraxas. Le soi devient le divin inconnaissable, toutes les autres parties deviennent le conscient, le moi, et toutes les parties inconscientes forment toutes les facettes de l'Abraxas. Donc il utilise cet archétype pour représenter l'entièreté du tout. Mais cette entièreté du tout qui n'est pas Dieu ou le diable, qui n'est pas le bien ou le mal, puisqu'il est à la fois la potentialité de tout et de rien en même temps, fatalement. Donc c'est ça qui est intéressant dans la psychologie jungienne, c'est qu'il ne réduit pas l'Abraxas à une figure positive ou négative. Mais d'ailleurs, la question étant, est-ce que les gnostiques de l'Antiquité réduisaient l'Abraxas en une figure positive ou en une figure négative? Est-ce que, à un moment, les gnostiques de l'Antiquité qui ont créé ce symbole l'ont utilisé pensant qu'il s'agit d'un dieu bienveillant? L'ont-ils usé en pensant qu'il s'agit d'un démon malveillant? Eh bien, pas du tout, en fait. C'est pas du tout le fonctionnement. Même dans les papyrus grecs magiques, Abraxas n'est pas utilisé en tant que déité qu'on invoque pour un pouvoir particulier, mais utilisé en tant que mot de pouvoir qui porte en lui une puissance effective et qu'on va pouvoir diriger. Mais jamais, à aucun moment, ni chez les gnostiques, ni dans la magie pratico-pratique de la Grèce ancienne, enfin de l'Égypte et le bassin méditerranéen antique, ni même pour Jung, ni même pour tous ceux qui ont utilisé Abraxas dans les temps anciens, jamais aucun ne considère Abraxas comme une entité spécifique. Il n'y a que les démonologues et certains adeptes de religions monothéistes modernes qui vont voir en Abraxas un démon. Mais ce n'était pas du tout le propos. Donc ça va nous conduire à la troisième partie, à savoir les secrets de la gnose. Quels sont les attributs de l'Abraxas? Quelles sont leurs fonctions? On va parler des 365 émanations de Dieu que représente ce symbole, dans la pensée des gnostiques, je précise. On va parler du concept des sept astres visibles représentés par ce symbole, et puis à la fin, on va poser la question, Abraxas est-il le démiurge des gnostiques? Mais avant cela, je vais aller voir dans le chat si, par hasard, vous aviez quelques questions à me poser. Alors, je remonte. Alors, ça c'était mes messages. Alors, je vois, bonjour de Rachel. Bonjour tout le monde, bonjour Ludovic, encore une belle émission qui s'annonce. Merci à toi, Rachel. Je vois Mitserev, bonjour à toi Mitserev. Je vois Miyung, bonjour à toi Miyung. J'arrive enfin à assister au live de Ludovic. Eh bien, ravi que tu aies pu être présente. Richard, salut les arcanistes, bonjour à toi Richard. Tech Hardouk, hello Ludo les amis, merci à toi d'être là. Alors, toujours toi, Tech Hardouk, tu nous dis, c'est vrai, mais ils ont changé de géant depuis, ça n'a plus aucun sens, c'était pas un message pour moi apparemment. Alors, l'histoire des croyances est tellement fascinante, Dominique, eh bien oui, je suis d'accord. Alors là, on a Richard qui nous dit, Aléa, Jacta et Abracadabra. Oui, on trouve tout un tas de dérives du nom. Le nom Abracadabra a plusieurs subdivisions suivant les langues, notamment, j'en ai cité deux pour l'exemple tout à l'heure, pour parler des étymologies du mot Abracadabra, mais Abracadabra tel qu'on l'entend, c'est un mot qui se structure dans la fin de la période antique, tel qu'on l'entend encore une fois, mais avant, au préalable, il est employé différemment chez les Grecs, chez les Hébreux, chez les... suivant si on est en araméen, suivant si on est plutôt dans les zones perses, etc., il va avoir des petites variables, en l'occurrence, ce terme. Mais on va retrouver la même symbolique idéale, qui est la formule de pouvoir, le mot magique, qui va déclencher une puissance. Mais retenez toujours que la même base, c'est le son original, le son de l'inspiration, l'absorption de la puissance, le A, l'absorption, et après on prend la puissance et on dirige en focalisation de la puissance. C'est ça le propre de l'abracadabra. Alors, y a-t-il d'autres messages ? Bonjour à toi, Ragnarok, bienvenue sur l'émission. Question de Tech Hardouk. Ce symbole pourrait-il être utilisé dans le cadre du rite RER en franc-maçonnerie ? PS, c'est Chaosferie. Eh bien, ah oui, je t'avais pas reconnu, Chaos. Eh bien, merci, merci à toi pour ta présence. Et, merci pour il y a un an, je me rappelle de ton aide. Est-ce que l'Abraxas pourrait être utilisé dans le RER en franc-maçonnerie ? Donc le RER, c'est le rite écossais rectifié ou le régime écossais rectifié, qui est un rite maçonnique qui a plusieurs spécificités par rapport aux autres. C'est un rite qui s'est structuré à la toute fin du XVIIIe siècle, dont le fondateur était Jean-Baptiste Villermoz, et qui a la particularité d'être à la fois chevaleresque, puisqu'il reprend un héritage symbolique templier. Dans son système de haut grade, il y a un grade qui s'appelle le chevalier bienfaisant de la cité sainte, chevalier du temple, hein, l'ancienne version, si je puis dire. Je simplifie, hein, parce qu'on n'a pas le temps de tout développer en détail, mais j'ai fait une émission sur le RER pour, je t'y renvoie, si tu l'as pas vu, mais je pense que c'était le cas. C'est des rappels pour tout le monde. Donc, le RER, le rite écossais rectifié, a cette spécificité un petit peu chevaleresque. Et de l'autre côté, il y a une spécificité chrétienne. C'est un rite qui est fondamentalement chrétien. Et quand on dit chrétien, c'est un christianisme mystique qui est basé sur les enseignements de Martinez de Pasquali, donc le martinésisme, et inspiré un peu par le Martinez de Claude Saint-Martin dans une certaine mesure, donc de la mystique chrétienne, où on travaille avec cette idée de réintégration divine, c'est-à-dire l'idée que l'individu a déchu de sa nature divine primordiale et qu'il doit retrouver le chemin de sa nature divine. Donc en soi, il y a pas mal de connexions possibles entre la pensée du régime écossais rectifié en franc-maçonnerie et les gnostiques de l'Antiquité, du moins certains d'entre eux. Il y a des ponts, il y a des possibilités, notamment avec les basilitiens, puisque dans le RER en franc-maçonnerie, il n'y a pas la perspective d'un démiurge maléfique. Donc en soi, le RER ne ressemble pas au courant gnostique des Ophites ou des Sétiens, mais ressemble un petit peu aux basilidiens. En revanche, ma connaissance étant évidemment limitée, je ne suis pas certain de tout savoir de cette tradition spécifique, mais pour avoir lu les rites, tous les rites de ce système maçonnique, je n'ai jamais croisé l'Abraxas, en l'occurrence. Je n'ai jamais croisé dans mes lectures ce mot. Alors, à ma connaissance, il n'est pas employé dans le régime écossais rectifié en franc-maçonnerie. Voilà, pour tenter de te répondre. Alors, y a-t-il d'autres questions ? Je vous rappelle, pour ceux d'entre vous qui arrivent en retard, si vous voulez poser des questions, il faut que vous soyez membre de la chaîne. Et vous avez le lien de souscription en message épinglé dans le chat. Alors, ensuite, il n'y avait pas d'autres messages pour le moment. Et bien donc, on va partir sur notre troisième partie de cette émission. Et puis ensuite, je reprendrai quelques-unes de vos questions, si vous en avez, à la fin, en l'occurrence. Alors, les secrets de la gnose. Tout d'abord, les attributs de l'Abraxas. Bon, on les a déjà présentés sommairement, mais on va voir un petit peu quels sont leurs intérêts. Donc, l'Abraxas, tout d'abord, c'est une tête de coq. C'est le symbolisme du soleil levant. C'est un symbole de lumière triomphante. Elle évoque évidemment le dieu Hélios, si on était dans la tradition grecque. Ça évoque la connaissance spirituelle, la vigilance et le symbole de l'initiation, du commencement du voyage. Le coq, oiseau solaire, incarne l'éveil mystique, et la victoire de la lumière sur les ténèbres et de l'esprit voilà, sur les ténèbres. Donc le symbole du coq, c'est un symbole qu'on va retrouver assez fréquemment pour manifester la victoire de la lumière sur les ténèbres, le retour de l'ordre après le chaos, le retour des jours glorieux, le principe un petit peu du soleil renaissant. Donc on est sur un symbole de résurrection, de renaissance, positif, bien entendu. Ensuite, c'est le corps humain. Ça représente la raison, la parole créatrice, la volonté ordonnatrice, souvent cuirassé, il exprime la maîtrise de soi, la conscience active et la dimension rationnelle du divin. Alors, il y a une chose qui est importante, c'est que rappelez-vous que l'Abraxas et cette représentation apparaît dans le cadre du gnosticisme. Donc, on est dans une perspective chrétienne, chrétienne ésotérique, mais chrétienne quand même. Et donc, dans cette perspective, il y a aussi l'Ancien Testament. Je vous rappelle, Basilide, lui, il ne rejette pas totalement l'Ancien Testament. Il en prend des choses. Pas tout, mais il en prend quelque chose. Donc, dans cette perspective, il y a l'idée que l'individu, l'humain, il est créé à l'image de Dieu. Donc, le corps anthropomorphe, c'est pour dire, c'est l'image du divin représenté. Certes, on va lui donner tout un tas d'attributs supplémentaires, mais l'homme est l'être de raison, l'être pensant. C'est la pensée active dans le monde, si vous voyez l'idée, dans le symbole de l'Abraxas. Donc, évidemment, c'est un homme. Enfin, homme, au sens humain, avec un grand H. Ensuite, les jambes, formées de deux serpents. Ça symbolise les forces telluriques, la régénération et le mouvement vital. Le serpent y incarne la sagesse ancienne, le lien entre la matière et l'esprit, entre le monde terrestre et le monde céleste. Alors, le serpent, ça ressemble évidemment aux deux serpents du caduceus d'Hermès, aux deux serpents de la Kundalini en Inde, Ida Pingala, c'est la même idée. Les deux serpents, c'est encore une fois le yin, le yang, pas au sens le bien, le mal, au sens les deux polarités, le plein, le vide, le froid, le chaud, l'homme, la femme, le dur, le doux, le mouillé, le sec, etc. Dans la pensée cosmogonique de la gnose, et même plus largement l'ésotérisme, toute la structure de la création est basée sur un antagonisme qui permet l'équilibre. Comme le jour, la nuit, comme le froid, le chaud. Prenez un exemple qui est intéressant. À partir de quel moment il fait chaud et à partir de quel moment il fait froid? Vous allez sortir de chez vous, il fait beau, il y a un grand soleil, vous allez dire, oh putain, il fait chaud aujourd'hui. Pas de souci, il fait chaud. Puis à un moment, vous sortez, il y a de la neige partout, il fait froid, vous sortez, il fait froid, objectivement. Mais où se place la frontière exacte? À la même température, si je sors dehors, peut-être que moi j'aurai la perception qu'il fait plutôt chaud. Et la même personne dirait, il fait plutôt froid. Alors que pourtant, il fait exactement, on est exactement dans la même situation. Donc le problème de ces deux forces antagonistes et complémentaires, c'est qu'elles sont toujours dans un mélange et un jeu d'équilibre de polarité. D'où le symbole du yin et du yang en Chine dans le taoïsme. Eh bien, ces deux serpents représentent ça. C'est les deux antagonismes parfaits, contraires, mais complémentaires qui se mélangent, en l'occurrence. Et l'Abraxas porte ces deux puissances. Donc, il est le symbole de la raison pensante, l'image de Dieu. Il est le symbole de la lumière qui s'éveille, c'est-à-dire de l'éveil cosmique de la vérité, le coq, et à cela, il porte les deux puissances ou les deux polarités qui expriment qu'il a pouvoir sur toute chose. Il est en harmonie. Maintenant, l'autre symbole, c'est le fouet ou le sceptre dans la main droite. C'est l'instrument du pouvoir cosmique. Il manifeste la volonté agissante et la domination sur les forces planétaires. Il exprime l'autorité et l'esprit sur la matière. Alors là, avec le fouet, on aurait pu le représenter par le foudre de Zeus, le pouvoir créateur et destructeur, le pouvoir d'action, de focalisation. On peut représenter, c'est le bâton de Moïse. Moïse, quand il accomplit ses miracles dans l'Exode, c'est le bâton, avec le pouvoir de Dieu qui est dans ce bâton, prêté par Dieu. Mais le fait qu'il porte ce sceptre veut dire qu'il porte avec lui le pouvoir agissant. Le fouet de l'Abraxas, c'est la baguette du magicien, c'est la baguette d'Harry Potter. C'est le sceptre de Gandalf ou de Elmister dans les royaumes oubliés. C'est l'objet du pouvoir agissant, projeté, créateur, destructeur. Maintenant, le dernier symbole, c'est le bouclier dans la main gauche, emblème de protection, bien entendu, et de souveraineté spirituelle. Il porte souvent le nom de Yah, identifiant Abraxas comme détenteur de la puissance divine suprême, pris de la mystique hébraïque. Alors là, l'idée, c'est que le bouclier, bon, c'est la protection, mais c'est l'inaccessibilité. Cette créature est invulnérable. Elle est invulnérable parce qu'elle porte en elle la protection divine, de l'entièreté du tout. L'Abraxas peut tout faire, et il est invulnérable. Donc l'Abraxas est bien l'entièreté du tout, il représente toutes ses facettes, et en plus de cela, il peut tout créer et tout détruire, et il ne peut pas être détruit lui-même, puisque le monde ne peut pas être détruit. Il peut être altéré, modifié et transformé, mais fondamentalement indestructible. Donc, si on part sur une optique spirituelle, l'individu qui cherche le chemin de la gnose doit acquérir progressivement tous les attributs du divin pour atteindre cet état. Donc il doit acquérir en lui ce symbole de l'initiation, c'est-à-dire d'éveil à la vérité, de gnose, le coq. Il doit être invulnérable et se faire d'une armure de cette puissance divine. Il doit acquérir la puissance pour contrôler les deux serpents, les deux forces antagonistes par le symbole du bâton agissant. Il doit devenir le mage, l'initié. Donc le symbole d'Araxas est un symbole qui illustre l'archétype de l'initié, dans une perspective gnostique. Plus loin, on peut poser la question des 365 émanations de Dieu. Donc, selon les témoignages de Irénée de Lyon, qui est un adversaire, précisons-le, des gnostiques, et de Hippolyte de Rome, lui aussi un adversaire des gnostiques, pour eux, Basilide enseignait que ces émanations formaient une hiérarchie d'êtres lumineux intermédiaires entre le Dieu inconnaissable et le monde matériel. Au sommet de cette chaîne se trouve l'Abraxas, principe cosmique dont le nom, d'une valeur numérique de 365, symbolise précisément la totalité de ces cieux. Chaque niveau représente un aïon, une manifestation progressive de la divinité, depuis le monde intelligible jusqu'à la matière. Cette architecture reflète la vision gnostique d'un monde ordonné, selon la gradation de la lumière, où l'âme humaine, issue du divin, doit remonter ces 365 sphères pour retrouver la plénitude originelle. Alors, dans la pensée des Basilidiens, cette architecture de 365, elle est intéressante puisque la première chose, c'est que c'est un constat visible. Il y a l'idée que, objectivement, le nombre 365 représente le nombre de jours de l'année solaire. Donc, le fait d'identifier ce chiffre permet d'identifier les 365 possibilités d'une année solaire, qui recommence. Mais ce chiffre est absolu. Enfin, après, on pourrait jouer sur le fait des années bissextiles et qu'il y a un petit peu plus d'heures dans la journée. Mais aux connaissances de l'époque, c'est un bon chiffre numérique. Ensuite de ça, l'idée de ces forces intermédiaires, c'est déjà extrêmement présent chez les Égyptiens et chez les Grecs. Chez les Égyptiens, vous avez un panthéon de divinités diverses et variées, certes, mais à l'origine, vous avez un dieu unique, Atum. Atum qui émerge du néant. En émergeant du néant, les autres dieux émanent de lui. Ce sont des avatars de lui-même, des possibilités de Atum. Isis, Osiris, Seth, Neftis, Anubis, Sokar, qui vous voulez. Tous, ce sont des manifestations du pouvoir divin. Et suivant les besoins de chacun, ils vont prier telle ou telle manifestation du pouvoir divin. Chez les Grecs, il y a les grands dieux célestes, mais à l'origine, il y a le chaos. De ce chaos émergent les divinités originelles, Gaïa, Tartare, Nyx, etc. Puis ensuite, il y a l'organisation du panthéon céleste, avec Zeus, Apollon, qui vous voulez. Et les gens vont prier telle ou telle divinité dans un but précis. Plus loin encore, chez les Hébreux, il y a l'idée, il y a un dieu unique, il n'y en a surtout pas d'autre. Oui, mais Dieu intervient par ses anges, ses émissaires, ses êtres intermédiaires entre la divinité et nous, qui vont manifester son pouvoir, détruire, etc. Donc, des puissances intermédiaires qui connectent au divin. Chez les Grecs, on les appelait les daimons, pas au sens démons maléfiques, daimons au sens puissance intermédiaire entre les dieux et les hommes. En Chine, dans le Tao, taoïsme, c'est les dragons. Les dragons, c'est les puissances intermédiaires entre le monde des divinités et des humains, etc. En ce sens, la pensée de Basilide, l'Abraxas représente toutes les possibilités des puissances intermédiaires qui connectent l'humain au divin, et avec des qualités spécifiques, bien entendu. Maintenant, plus spécifiquement, les sept astres visibles. Dans la gnose et les traditions ésotériques antiques, le nombre 7 revêt une signification cosmique et spirituelle. Il représente l'ordre du monde manifesté, la structure harmonique de la création et le chemin de l'âme à travers les sphères célestes. Chez les gnostiques, le septénaire correspond aux sept grands archontes planétaires, chacun régnant sur une sphère céleste associée à un astre, Saturne, Jupiter, Mars, Soleil, Vénus, Mercure et la Lune. Ces entités gouvernent les niveaux inférieurs du cosmos, séparant le monde divin du monde matériel. L'âme, pour atteindre la plénitude de la lumière, doit franchir ces sept voiles ou portes, un processus d'ascension spirituelle que l'on retrouve aussi dans les mystères mitraïques et hermétiques. Le nombre 7, également symbole de l'achèvement et de la totalité cyclique. Les 7 jours de la création, les 7 planètes visibles, les 7 tons de la gamme de lumière, ou encore les 7 métaux des alchimistes. Dans ce sens, il unit le ciel et la terre, le temps et l'éternité, et incarne la mesure parfaite du cosmos ordonné. Ainsi, dans la pensée gnostique, comme dans la tradition initiatique, le 7 exprime la hiérarchie des mondes, la progression de la connaissance et la réintégration de l'âme vers le principe suprême. Alors, la notion des 7 astres visibles, elle n'est pas spécifique à l'Abraxas, vous allez le trouver à peu près partout dans les traditions initiatiques. Ce qui est intéressant, c'est que là, il y a un parallèle évident entre l'Abraxas qui exprime ces 365 aéons possibilités du divin, mais on va s'articuler sur 7 spécifiques, 7 spécifiques représentées par son nom. Les 7 astres visibles, c'est quoi? Déjà en Mésopotamie, bien avant, il y avait 7 dieux importants, principaux parmi les autres. Sin, Samash, Ishtar, etc. qui représentaient les 7 astres visibles. Il ne s'agit pas de dire que les Mésopotamiens anciens croyaient que la Lune ou Vénus était une divinité au sens physique. Mais cet astre visible au sens représenté était la représentation du pouvoir actif dans la matière de la divinité qui, elle, est invisible. Ces 7 astres représentaient les 7 puissances organisatrices du cosmos de façon structurée. Comprendre cette structure permettait de comprendre le divin. C'est toujours pareil. Dans le culte à mystère de Mitra, qui était très répandu dans l'Empire romain et dans le bassin méditerranéen, il y avait 7 degrés initiatiques. Chacun des 7 degrés initiatiques traduisait un rituel de passage, comme en franc-maçonnerie ou dans d'autres systèmes, et chacun de ces rites de passage était lié à un des astres visibles, une des planètes ou soleil, lune, bien entendu. Pour arriver au dernier stade, le dernier stade des cultes à mystère, comme Mitra ou d'autres systèmes, c'est que l'individu prenne conscience de sa nature véritable et qu'il retrouve sa nature divine en lui. Donc, qu'est-ce que nous dit l'Abraxas avec ses symboles, ses nombres et sa représentation? Eh bien, dit l'Abraxas, c'est les possibilités entières de l'univers, et c'est vous en potentialité. Vous êtes des Abraxas en potentialité si vous vous équipez progressivement de tous ces attributs, de façon symbolique bien entendu, que vous apprenez à dominer et à comprendre les 7 astres visibles, les 7 puissances fondatrices organisatrices, que vous apprenez toutes les facettes du divin et que vous faites vous reconnecter avec ça. Si vous vous reconnectez avec l'entièreté du cosmos, à la fin, vous êtes Dieu. Du moins, vous l'êtes en potentialité. Alors évidemment, ce n'est pas du goût du christianisme classique, qui voit évidemment ici une hérésie. Mais à la base, les gnostiques considèrent que Dieu, macrocosme, et vous, microcosme, vous êtes une émanation de Dieu. Si vous êtes une émanation de Dieu, vous êtes lui en potentialité. Voilà, tout simplement. Alors, maintenant, on va voir encore deux petits points. Abraxas est-il le démiurge? Le démiurge malveillant qu'on présente souvent. Eh bien, c'est plus compliqué chez les basilidiens, comme je vous le disais. Contrairement à d'autres écoles gnostiques, comme les Ophites ou les Sétiens, Basilide ne conçoit pas le démiurge comme une puissance maléfique. Basilide enseigne qu'il existe un Dieu suprême, absolument transcendant, que nul esprit ne peut concevoir ni nommer. Ce Dieu, premier, n'est pas le créateur direct du monde, mais la source de toutes les émanations spirituelles. Il est le non-être, le principe originel duquel découle tout le reste. Basilide semble influencé par la pensée des Grecs. La matière est inférieure à l'esprit, mais non mauvaise en soi. L'univers est ordonné selon des degrés d'être depuis le Dieu inconnaissable jusqu'à la matière. Les 365 cieux, gouvernés par Abraxas, reflètent cette graduation ontologique, non une lutte du bien contre le mal. En réalité, le symbole de l'Abraxas s'émancipe complètement de la question du bien et du mal, puisque fondamentalement, il contient toutes les possibilités. Donc le bien et le mal sont dans l'Abraxas. Ce n'est ni un ange, ni un démon, ni Dieu, ni le diable. Il est la possibilité. Alors ça, c'est important, parce que le courant des basilidiens ne voit pas du tout le monde comme une chose mauvaise. Contrairement, par exemple, au Qatar, qui voit le monde comme une création maléfique du démiurge, et donc le monde de la matière est quelque chose de mauvais, eh bien les basiliens, eux, pas du tout. Ils considèrent que le monde de la matière, c'est un champ d'expérimentation qui est créé par l'émanation de la divinité, et que c'est notre terrain de jeu. Et donc, ce fait, comprendre l'environnement cosmogonique va nous permettre de nous élever à un autre état de conscience. Il ne s'agit pas de se limiter à la matière, il ne s'agit pas de considérer que c'est très bien d'être là, il s'agit de dire simplement qu'elle est émanation du divin, tout comme nous. Donc, pourquoi la rejeter? Il faut au contraire la comprendre, et de là, cette compréhension, ça permet de faire un avec l'univers, un avec Dieu, et donc d'être Dieu soi-même. C'est toujours la même pensée chez Basilide, et véhiculée par l'Abraxas. Donc, voilà pour l'enseignement gnostique proposé par Basilide via ce symbole notamment. Évidemment, ce n'est pas la seule école gnostique. Évidemment, ce n'est pas le seul enseignement gnostique. Et encore une fois, et je le rappelle, je ne suis pas là pour vous dire s'ils ont raison. Je ne suis pas là pour vous dire si Basilide a raison ou si son système est mieux ou moins bien que les autres. Je suis là pour vous le présenter et vous l'expliquer. Alors maintenant, on va aller à la conclusion de cette vidéo, puis après je prendrai vos questions, puisqu'on va faire un petit comparatif qui est intéressant, c'est la ressemblance entre ces deux symboles, le Baphomet d'Eliphas Lévi et le Abraxas de Basilide. Alors tout d'abord, précisons deux choses. Le Abraxas est bel et bien une représentation antique du IIe siècle créée par Basilide, ou du moins les membres de son école. Le Baphomet que vous voyez là sur cette image, ce n'est pas le Baphomet des Templiers au XIIe, XIIIe, XIVe siècle. Le Baphomet que vous voyez représenté ici est une composition, un dessin, qui a été créé par Eliphas Lévi dans son livre Dogmes et rituels de haute magie au XIXe siècle. Vous observez des parallèles tout à fait intéressants. Le bras en haut, le bras en bas. Donc l'équilibre microcosme-macrocosme. Vous remarquez une tête hasardeuse, l'une un coq, l'autre anthropomorphe avec un bouc. Alors vous allez me dire, le bouc, ça a tout de suite un travers un petit peu moins sympathique. Sauf que quand on cherche dans les traditions, on va voir que le bouc a plusieurs images qui ne sont pas inintéressantes. On va retrouver les deux serpents qui ne sont pas mis sous la même forme, mais qui sont présents, ici plus sous forme du canucé. Symbole masculin-féminin avec le Baphomet qui n'est pas représenté spécifiquement dans l'Abraxas. Donc, comprenons à ce stade, n'essayons pas de faire entrer des triangles dans des carrés. Le Baphomet et l'Abraxas ne sont pas des symboles jumeaux, ce ne sont pas des symboles parfaitement identiques, il y a des différences, néanmoins, ils semblent partager plusieurs éléments communs. L'Abraxas illustre les deux puissances complémentaires antagonistes, les deux puissances toniennes et célestes, tout comme le Baphomet tel que décrit par Eliphas Lévi. Le symbole du coq, principe de l'éveil spirituel, représente aussi pour le Baphomet d'Eliphas Lévi avec le bouc. Pourquoi ? Parce que le bouc, dans la pensée d'Eliphas Lévi tel qu'il conçoit, va représenter le principe du bouc ctonien, c'est-à-dire du dieu Pan, ou du Kerninos, ou de la Kéla, ou de la Kerr, hein, peu importe, c'est-à-dire le principe le principe de la régénération. Et donc la régénération, donc cycle de vie et de mort. Et là, on va retrouver l'idée du coq qui annonce la renaissance. Donc, ce n'est pas la même chose, mais les chemins vont arriver au même but. Ensuite, l'idée de cette alliance du haut et du bas, microcosme-macrocosme, on va retrouver l'idée que ces deux symboles représentent un archétype de l'initié, celui qui comprend les règles et les lois de l'univers, qui porte sur lui les atouts pour contrôler les forces cosmiques, et qui devient le démiurge à son propre état, l'initié, celui qui arpente le chemin pour retrouver sa véritable nature divine. Ce sont les archétypes du mage. Sauf que l'un a été composé au IIe siècle, et l'autre a été composé au XIXe siècle. Ce n'est que plus tardivement que le Baphomet d'Eliphas Lévi sera utilisé comme étant un symbole de Satan, et ça, on le doit à Léo Taxil, à la toute fin du XIXe siècle, mais le Baphomet d'Eliphas Lévi n'a pas été conçu comme étant un symbole satanique à l'origine. C'est une déformation. Donc, encore une fois, ce ne sont pas les mêmes symboles, mais ils traduisent avec 17 siècles d'écart une quête commune qui est celui que l'individu accède au mystère du divin. Donc l'Abraxas est un témoignage, le souvenir d'une tradition qui nous a laissé quelques vestiges et qu'il est passionnant d'étudier. Voilà pour ce que je voulais vous dire pour cette émission de ce jour. Alors maintenant, je vais aller voir un petit peu dans le chat si vous avez quelques questions. Et puis, le temps que vous les posiez, en l'occurrence, quelques petites informations très rapidement. Il y aura une autre émission live la semaine prochaine, mais ce sera une émission longue, ce sera une émission de soir, en l'occurrence, donc le long live du mois. Ensuite, il y aura une autre émission on va traiter de la sorcellerie ce mois-ci dans une émission qui sortira dans le mois. Et puis, évidemment, à la fin de ce mois-ci, le nouvel épisode de l'Academia. Nous parlerons encore de la bibliothèque de Nag Hammadi, puisque je vous présenterai encore une fois un nouvel évangile apocryphe, mais je ne vous dis pas encore lequel. Donc, si vous souhaitez, si vous souhaitez accéder à l'Academia de la fin du mois qui traitera ou qui continuera notre exploration de la bibliothèque de Nag Hammadi, après donc les épisodes sur l'hypostase des archontes, le livre secret de Jean ou l'apocryphon de Jean, puis l'évangile de Philippe que nous avons vu les dernières fois, et bien là, nous traiterons un nouveau texte de la bibliothèque de Nag Hammadi. Donc, si vous avez envie d'y accéder, vous pouvez le faire en allant sur Tipeee et en prenant le statut de type en précommande, bien entendu. Vous pouvez devenir membre au statut arcaniste sur la Web TV et vous aurez accès à l'émission quand elle sortira à la fin du mois. Alors maintenant, dans le chat, y a-t-il des questions sur ce sujet? Je remonte un petit peu. Ça c'était déjà dit. Chaosphérie Tech Artok tout nous dit, on tombe dans le principe de polarité du Kybalion. Oui, le Kybalion dit exactement la même chose. Alors, le Kybalion est un texte plus récent, c'est un texte du 19e siècle, mais le Kybalion est un texte qui s'appuie sur l'occultisme 19e et un petit peu l'hermétisme, donc revu en ésotérisme version début 20e, bien entendu, mais le Kybalion reprend tout à fait les concepts d'Eliphas Lévi ou des concepts qu'on va retrouver dans l'Abraxas. L'ésotérisme étant ce qu'il est, les concepts vont se reproduire au gré des civilisations, au gré des époques, bien entendu. Alors ça pose la question évidemment d'une tradition primordiale, pourquoi pas, mais en tout cas, le symbole de le Kybalion dit la même chose sur les polarités que l'Abraxas. Raquel, question, 365 jours dans l'année aujourd'hui, mais est-ce qu'au temps de l'origine de l'Abraxas, l'année était divisée de la même manière? Oui, tout à fait. À l'époque de la composition de l'Abraxas, le temps était découpé de cette manière. Il était découpé à minima pour les Égyptiens et pour les Grecs, en l'occurrence. Donc du coup, oui, en effet, c'était déjà la structure temporelle établie. C'est d'ailleurs pour ça que ces symboles utilisent ces symboles. Sinon, ce n'est pas ceux qui auraient été utilisés. On le voit, en fait, la construction de nos échelles de temps avec le fameux 24 heures par an. 24 heures par jour, c'est 12 heures de jour, 12 heures de nuit, sur un plan symbolique. 12 heures de jour, c'est l'archétype du nombre 12. Les 12 constellations que traverse le soleil au cours de l'année. C'est les 12 travaux d'Héraclès, c'est les 12 tribus d'Israël, c'est les 12 apôtres de Jésus. Etc., etc. Donc toute la symbolique ésotérique d'un côté est en adéquation avec notre découpage du temps, 24 heures, 12 de lumière, 12 de ténèbres. Le nombre 60, on est sur les multiples des 12. Le nombre 360 degrés, le nombre 360 degrés, on est toujours sur ces multiplicateurs de 72, on est sur les multiplicateurs, etc., qui vont revenir à ça. Toute l'architecture numérique du temps et de la géométrie est utilisée dans le cadre ésotérique, comme représentation cosmogonique. On voit bien, en fait, la logique, c'est que les mathématiques forment un langage universel. C'est-à-dire même des gens qui ne parlent pas la même langue, qui parlent allemand, japonais, chinois ou coréen, ou français ou ce que vous voulez, on va se comprendre sur les mathématiques. Et bien, de ce fait, l'ésotérisme va considérer les mathématiques comme un langage universel et donc considérer qu'il y a dans les mathématiques des lois fondamentales de nature mystique, et donc ils les utilisent. Donc le 365, qui est, chez les Égyptiens par exemple, 360, c'est le nombre symbolique. Mais les Égyptiens, ils ont bien remarqué qu'avec 360, on ne fait pas l'année solaire, il manque 5 jours. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont considéré que les 5 grands dieux, Osiris, Isis, Neftis, Set et j'ai oublié le troisième, Aoeris, ces cinq dieux, eh bien, en fait, le temps a été arrêté, cinq jours ont été intercalés pour faire naître ces cinq divinités. Donc, on a 360 jours, plus cinq jours supplémentaires pour la naissance des divinités. Donc, tout s'illustre par la mythologie, l'ésotérisme, etc. Donc, oui, c'était déjà connu au temps des Égyptiens, en l'occurrence. Alors, question de mythe se rêve. Ceci nous ramène à la question, y a-t-il quelque chose au-delà du bien et du mal? Le bien est-il tout? Bien plus mal, est-il plus que bien seulement? Y a-t-il un dieu au-dessus du dieu? Vaste problématique, je ne suis pas sûr de pouvoir y répondre. Mais posons la question différemment. Posons la question différemment. Attends, je remets le message. Le bien est une définition que l'on pose nous. Le mal est une définition que l'on pose nous. Ce bien et ce mal, ils peuvent varier. Quand je dis ça, je m'explique. Ce que je perçois comme étant le bien peut varier d'une autre personne dans sa représentation du bien, suivant mes codes éthiques, mes codes moraux, une société donnée, mon éducation et tous mes enseignements. Je vais prendre un exemple bête idiot et un petit peu savoureux. Dans l'histoire de Sodome et Gomorre, à un moment, vous avez Lot, il est chez lui, à Sodome, et il y a des anges de Dieu qui viennent chez lui. Il les accueille, c'est des anges de Dieu quand même. Et là, il y a les hommes de Sodome qui disent « Il y a des gens chez toi, tu vas nous les donner, et puis nous, on va leur faire des trucs pas très très bien. » Tu vois l'idée. Et Lot, il dit « Ah non, ne touchez pas à ces gens, ne touchez pas à ces anges. Par contre, si vous voulez, j'ai deux filles, elles ont connu aucun homme, si vous voulez, je vous les donne. Faites-en ce que vous voulez. » Je cite la Bible en disant ça. Donc évidemment, on pourrait se dire, et sur le plan de la morale, est-ce que quand Lot propose de donner ses filles à une tribu de bonhommes de mauvaise humeur, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est un moindre mal par rapport aux anges? Est-ce que c'est un moindre mieux? C'est compliqué comme situation. Moi, je pense que c'est une horrible chose de vouloir... Je suis pas d'accord avec Lot, en l'occurrence. Mais bon, passons, ça c'est un point de vue personnel. Quoique, la frontière entre le bien et le mal est complexe. J'ai fait toute une émission sur le problème du mal qui l'explique mieux, je pense, je rentre le détail. Mais pour rester simple, on va considérer sur un plan théologique qu'il y aurait un bien ontologique et un mal ontologique. Mais même en considérant qu'il existe un bien bien défini, absolu, et un mal bien défini et absolu, il n'empêche que l'un existe et l'autre existant aussi, il forme de ce fait deux antagonismes complémentaires qui fait que l'un et l'autre existent. Comment peut-on définir le bien si le mal n'existe pas? Comment peut-on définir ce qui est mal si le bien n'existe pas? Et là, vous retrouvez l'histoire du chaud et du froid. Où se trouve la frontière exacte? Donc, la question du bien et du mal est un sujet plus que délicat. Je pense pas avoir répondu à ta question, mais je ne suis même pas sûr que ce soit possible d'y répondre. Question, que signifie nature divine? Nature divine veut dire que... Alors c'est pareil, c'est une question. Dans la nature divine, ça veut dire pas humaine. Nature divine veut dire quelque chose qui est transcendant au-delà de nous. Mais par exemple, si on dit nature divine pour les Grecs de l'Antiquité, les dieux, les titans sont de nature divine. Au sens, ce sont des êtres qui ne sont pas des humains, qui ont beaucoup plus de pouvoir que nous et qui peuvent faire des actions beaucoup plus que nous. Ils sont de nature divine. Et nous, nous ne le sommes pas, dans leur perspective. Mais si on se place dans le monothéisme hébreu, juif ou musulman, la nature divine, c'est Dieu, absolu et incompréhensible. Donc la nature divine est un mot qu'on essaie d'utiliser pour définir quelque chose qu'on n'est pas en capacité de percevoir. Donc encore une fois, la définition change. Pour faire extrêmement simple, quand on parle de nature divine, on va considérer que ça touche la nature des êtres sublimes, supérieurs. Nature divine, on va pouvoir l'employer pour des anges, pour des dieux, un seul dieu ou plusieurs, peu importe. C'est un mot d'usage, mais il faut le mettre dans un contexte pour qu'il ait son sens. Quand on l'utilise, par exemple, pour des humains, dans le cadre de la gnose, donc la nature divine originelle, le concept est assez simple, qui dit, il y a le Dieu Père-Mère originaire de toute chose, de là, il émane, toutes les facettes de la création sont des émanations, des projections de lui-même, ce qui veut dire qu'en potentialité, hein, j'emploie sur la potentialité, nous autres, nous serions une émanation de ce Dieu inconnaissable, une image de lui, microcosmique, et dont ce fait, même si on l'aurait oublié, même si on n'en aurait pas conscience, notre nature originelle, notre essence première serait de nature divine, identique au divin. Voilà. Comment on pourrait l'expliquer ? Alors, ça, c'est pas forcément des questions pour moi. Je vois une autre question. Hop, 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 hop. Ça, c'est pas encore des messages pour moi, donc on arrive au bout des questions. Eh bien, je crois qu'on est arrivé à la fin, au bout de cette émission pour aujourd'hui. Donc voilà, vous voyez, petit live d'après-midi. Donc j'ai gardé l'horreur de 18h comme la sortie des vidéos classiques, pour que ce soit plus facile pour vous au niveau du rendez-vous. Quand je ferai des lives d'après-midi, à partir de maintenant, je les ferai comme ceci, je les ferai à 18h. C'est quand même beaucoup, beaucoup plus pratique pour les gens qui travaillent et qui veulent venir en direct. Donc merci à tous. Merci à tous d'avoir été au rendez-vous. Pensez, ça prend pas beaucoup de temps pour vous, mais mettre un petit pouce vers le haut, ça vous prend une demi-seconde, mais ça fait très plaisir à YouTube, et donc par extension à moi aussi, parce que ça permet de référencer la chaîne. C'est assez compliqué le référencement sur YouTube, donc vous avez votre part qui permet ce référencement. Partagez sur les réseaux sociaux si les émissions vous plaisent, bien entendu. Pensez à me mettre en commentaire sous la vidéo, après la diffusion, hein, pas dans le chat, mais sous la vidéo, pensez à me mettre un petit message code pour voir qui regarde la vidéo jusqu'au bout. Et le code d'aujourd'hui, le mot secret, Eliphas Lévi. Non, ou Baphomet. Vous mettez Eliphas Lévi ou Baphomet, celui que vous voulez, mais ça sera parfait. Ça montrera que vous avez regardé l'émission en entier. Voilà, je vous retiens pas plus longtemps. Je vous souhaite le meilleur pour vous, pour vos proches, le meilleur pour vos projets. Que tout se passe bien, dans l'harmonie, dans la bonne humeur, dans la santé. Et moi, je vous dis à lundi prochain, peut-être pour un live aussi, mais dans tous les cas, au pire des cas, je serai là. Mercredi, la semaine prochaine, pour une émission live à 21h, donc notez la date et le rendez-vous. Des bisous et à très bientôt.